Et là, tu vois, là, c'est l'esprit, l'état d'esprit de vraiment, ok, là, on n'a pas le choix, il faut que j'y aille. Exactement. Et que je porte mes couilles et que j'aille dire à Bob Sinclair, en fait, je suis personne, mais viens sur mon média, s'il te plaît. Et donc, du coup, je lui dis, ouais, essaye d'aller le voir, de lui parler, moi, en attendant que j'arrive, etc. Et du coup, j'arrive chez elle, elle me dit, ouais, machin, il est juste là et tout. Et je vois qu'il est là, et du coup, on descend ensemble, je vais le voir, et en fait, le mec, trop sympa.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antonin Marin, le cofondateur du Crayon. Salut Antonin.
Salut David.
Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le Crayon aussi?
Eh bien, je m'appelle Antonin Marin, j'ai 25 ans. J'ai fondé du coup le média Le Crayon. Qui est un média aujourd'hui, un média digital principalement, enfin sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, bref, tous les réseaux possibles, imaginables. On n'est pas sur Pinterest, peut-être un jour.
Les Français l'utiliseront.
Il y a beaucoup de Français, il y en a de plus en plus. Il faudrait s'y mettre à Pinterest, je suis intéressé un petit peu, mais pour l'instant on n'est pas dessus. Bref, non, Le Crayon c'est un média, aujourd'hui on cumule bientôt 500 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est des vidéos publiées tous les jours sur les réseaux sociaux.
Ok.
Et
du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est toi, t'as fait quoi comme étude pour en arriver à là? Parce que si je comprends bien, c'est le premier job que t'as eu, c'est Le Crayon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé là?
Moi, du coup, j'ai pas fait d'autres jobs comme Crayon, comme tu disais. J'ai fait des études de mathématiques. Moi, je me rêvais chercheur en maths à l'époque. Donc, j'avais pas du tout cette fibre entrepreneuriale que je peux avoir aujourd'hui et qui est née avec Le Crayon. En fait, j'avais une fibre soit scientifique, même un peu artistique, parce que je composais des musiques. Enfin, je faisais des trucs à côté, pas mal de trucs en vrai. Mais j'avais pas réalisé qu'en fait tout cet élan et tout ce que j'avais en moi, ça se rapprochait du côté entrepreneurial. Et d'ailleurs, je l'ai compris assez rapidement en faisant le Crayon.
Tu peux nous raconter un peu donc la genèse du Crayon? Vous êtes 3-4 cofondateurs?
On est 4 fondateurs. Donc pour l'histoire, c'est Sixtine à la base elle était très jeune, elle était au lycée et elle s'intéressait énormément à la politique. Et sauf qu'elle se rendait compte que les personnes qu'elle avait autour d'elle, ses potes, la politique, ça les faisait vraiment chier, quoi. Genre vraiment.
C'était de cela.
Mais il y en a beaucoup, en vrai, il y en a beaucoup. Et je pense, hormis ceux qui nous écoutent, très certainement aussi. Mais en fait, et elle s'est dit, mince, il faut faire quelque chose. Genre, c'est pas possible que moi, je m'intéresse à la politique et qu'il y ait personne qui s'intéresse à la politique. Donc, de là, Valran, qui est son frère, a dit à Sixtine, ok, Valran qui a toujours été dans l'esprit entrepreneurial, qui a déjà monté plusieurs boîtes avant Le Crayon, qui est très très fort là-dessus, a dit à Sixtine, ok, il y a un truc à faire, on va monter une appli. Ok, du coup Val monte une appli et en gros l'idée c'est de donner la parole aux jeunes et de dire chaque jeune va pouvoir s'exprimer et va pouvoir donner son avis, quel que soit son bord politique. On va laisser les jeunes s'exprimer et en fait c'est ça qui va donner l'intérêt aux jeunes de la politique, parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer, pouvoir donner leur avis, et en fait ce sera pas juste un avis qui tombe du ciel des politiques, juste c'est eux qui donneront leur avis et on pourra lire tout ça.
Ça ressemble beaucoup à Twitter.
On a voulu réinventer Twitter,
ouais. Okay.
Non, mais voilà, et du coup c'était ça l'idée et donc de là Val contacte plusieurs de ses potes. Donc moi j'étais un ami d'amis de Val en fait. Et de là en fait Jules et moi on rentre dans le projet. De base comme rédacteur, mais en fait petit à petit, on s'investit à fond dans le projet, ce qui fait qu'en fait, on constitue le noyau dur de ce que va devenir le Crayon. À l'époque, ça s'appelait le Crayon Politique, c'était une application donc que Val avait codé lui-même et tout.
C'était comme un, t'avais une sorte de feed, de wall.
Ouais, t'avais un feed avec des articles, tu défilais, tu choisissais ton article, t'avais pourquoi moi j'avais écrit un article sur l'Europe, pourquoi
d'accord,
je pensais que
c'était
l'Europe
déjà un média, c'était déjà un média.
L'idée, c'était vraiment on publiait des trucs. Sauf que bon, on avait fait beaucoup de com, on avait pas mal parlé dessus, mais
et donc ouais. Ça, c'est Valrant qui code le truc.
Ouais.
Toi et Sixteen, du même qui écrivent des articles.
Et Jules aussi.
Et Jules. Et comment est-ce que tu crées les premiers utilisateurs déjà? T'envoies à ton réseau, les gens vont dessus.
Ouais, déjà c'est le réseau, première personne, la famille, les amis, les gens qu'on connaît, etc. Et donc les gens en vrai. Et là c'est assez marrant de voir quand tu te lances sur un projet, t'as souvent l'impression de te dire ouais mais ça va déranger tout le monde et tout. En fait tu vois les gens qui sont trop contents et qui partagent.
De tout bord politique. Il y avait pas de segmentation. C'était vraiment.
On acceptait tout le monde.
Venez parler, dites votre avis.
Exactement.
Et comment tu créais des débats? Tu pouvais commenter les trucs des gens.
Okay. Tu pouvais commenter. Après, il y avait sur les réseaux sociaux aussi, c'était là où c'était pas hyper bien fait, c'était qu'on n'avait pas encore cette notion de débat où nous on voulait que tout le monde s'exprime, mais la notion de débat, on sentait qu'il y avait un truc à faire, mais on n'arrivait pas à le mettre hyper bien en forme. Genre, ouais, c'était pas hyper bien pensé.
Là, on est en quelle année?
Là, on est 2018, fin 2018.
Donc, il y a quand même, à cette époque-là, déjà, tous les Hanouna et tout qui cartonnent à faire des débats toute la journée, sur tout et n'importe quoi, avec n'importe qui, tout ça.
Ouais. Clairement. Et en vrai, c'est des trucs que nous, on a toujours aimé dans le sens où on n'est pas forcément dans le spectacle ou dans le show, etc. Mais on a toujours aimé le fait que, en fait, tu peux se retrouver des gens d'univers complètement différents, tu les retrouves et ils se discutent et en fait, t'as quelque chose qui sort de ça. Alors, ce quelque chose, il peut être complètement lunissime, mais il peut être aussi complètement fou et créer des choses nouvelles et c'est ce qu'on s'est rendu compte d'ailleurs après sur le Crayon en faisant les débats qu'on a fait. Mais
donc là vous lancez ce truc, il y a la famille tout ça qui arrive et tu sens déjà un peu de viralité à ce moment-là ou pas?
Non, en vrai
pas
non.
Du tout.
Non pas du tout. Et c'est en fait c'est pour ça qu'on a arrêté ce
et là c'était vous étiez toi t'étais encore étudiant.
Ouais totalement.
Qui avait besoin d'argent à ce moment-là? Val probablement.
Tout le monde on avait tous besoin d'argent. Enfin moi d'accord. J'étais étudiant donc en soi j'étais boursier moi à l'époque donc j'avais de l'argent de la bourse étudiante et on avait tous plus ou moins nos parents vivaient chez nos parents, ils nous aidaient etc. En vrai ça allait, on pouvait s'en sortir, c'était pas la période la plus facile de ma vie non plus, mais en vrai ça va, tu vois, genre c'était pas ça allait. Et du coup on se rend compte que bon ça marche pas forcément l'application, on arrive à petit à petit, on publie des trucs sur Insta, ça monte un petit peu, mais on avait aussi ce souci de viralité, on voulait vraiment, tu vois, que sur les réseaux sociaux ça performe, que les gens nous voient un maximum. Et là on voyait que c'était très limité et que cette utopie qu'on avait elle était très limitée avec cette application. Donc on décide de shut down l'application, de dire terminer l'application, et on repense un peu tout le projet. Et en fait ça part initialement
Combien de temps s'est passé entre le lancement et la fermeture?
Alors décembre 2018 je rentre dans le projet, donc là bébé projet etc. On lance le projet en mai 2019, les articles machin nanana. Et le projet s'arrête en décembre 2019.
Donc là ça fait un an que t'es dedans, la plupart des gens ils auraient dit bon allez je vais chercher un taf quoi. Et toi tu t'es dit non on retente.
Moi, je suis un acharné. Je suis un acharné. Quand il y a un truc qui me plaît, et en vrai, ça aurait pu être un truc qui m'intéresse autre, tu vois. Mais juste, j'étais dedans, ça me plaisait, j'avais envie de continuer. Et tu sais, t'as ce truc de quand tu crées un truc, il y a ce côté, c'est ton bébé, et t'es attaché au truc, tu vois.
La résilience, c'est la qualité numéro un de l'entrepreneur, donc ça m'étonne pas.
Ouais, mais exactement. Okay. Et en vrai, tu regarderas, tu connaissais Val, Sixteen et Jules, tu verrais qu'on est tous très très résilients. Et du coup, on a continué comme ça. Donc, on a relancé un peu le projet. On s'est dit, maintenant, il faudrait qu'on fasse de la vidéo. Donc, on a basculé petit à petit sur la vidéo. Et en fait, ça vient de moi qui avais ce souci depuis que quand j'étais au collège. Tu vois, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des covers sur YouTube. Tu vois.
De chansons.
De chansons. Ouais. elle est fermée. Personne ne pourra la retrouver. Mais tu vois, j'ai toujours. Il y a Aurore qui sont là. J'ai toujours voulu, tu vois, faire, je sais pas, créer des trucs. Et du coup, sur le Crayon, je me dis, en fait, à l'époque, donc, ça s'appelait Crayon Politique, je me dis, il y a un truc à faire avec la vidéo, j'ai envie de faire quelque chose. Donc, je prenais à l'époque, j'avais mon vieux Samsung, j'avais même pas un iPhone, j'avais mon vieux Samsung, et je prends une vidéo, je la tourne, je la monte sur iMovie, enfin, le truc vraiment aujourd'hui. D'ailleurs, il y a encore des gros youtubeurs qui montent encore sur iMovie, je vois ça, parfois, n'importe quoi, mais bref. Et je montais sur iMovie avec un vieux Samsung que j'avais tourné, et j'avais tourné un truc qui s'appelait L'Actu Pressé. Un truc vraiment genre, c'est encore sur le Crayon, vous pouvez toujours aller voir. C'est vraiment nul. Genre vraiment, c'est nul. Mais moi, j'étais trop content. Et du coup, je le montre à Val et l'équipe, je dis, regardez, j'ai fait ça et tout, machin. Et ils vont me dire, c'est trop nul et tout. Et en fait, ils ont trop kiffé. Ils ont trop kiffé ce truc-là. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille sur la vidéo. Genre, on est capable de faire des vidéos tout seul. On peut faire de la vidéo.
Est-ce que à ce moment-là, il y a une arrière-pensée de un peu business en mode ouais, en ce moment la vidéo ça monte partout aux États-Unis, il y a des nouveaux formats vidéo en France avec Combini, avec
mais en fait...
avec Brut, etc. Donc là tu t'es dit ah putain, je recolle les morceaux. C'est vers là qu'il faut aller parce que c'est le bon nouveau format en fait.
Ouais, ouais, en fait on était totalement consommateurs de Brut, Combini, et c'est d'ailleurs ça vient de là aussi, tu vois, parce que en gros le crayon, quand on a repensé le truc en vidéo, on s'est dit c'est pas possible aujourd'hui que les médias digitaux, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, soit déjà désincarnés la plupart. T'avais Hugo Décrypte qui existait, mais c'était pas encore tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mmh. Donc c'était Brut Combini. Je pense à Brut Combini. Ils étaient désincarnés et on va dire ils avaient une ligne éditoriale qui n'était pas assumée officiellement. On savait plus ou moins que bah c'était d'un bord politique ou en tout cas d'une certaine pensée que tu pouvais pas. Il y avait jamais. Ça, parfois, t'avais l'impression que ça allait que dans un sens et tu disais mais en fait c'est relou parce que moi sur ce sujet-là je suis d'accord avec eux, ok, mais sur le sujet qu'ils ont publié je suis pas d'accord. Et eux ils disent ça comme ça, c'est un fait avéré, on peut pas contredire, il y a pas de débat, on sait pas, tu vois. Et ça nous avait un peu frustré, on s'est dit là il y a un truc à faire. Et notamment dans la viralité, on s'est dit en fait nous on voit qu'il y a un problème, il y a un enjeu à traiter, mais eux ne le traitent pas, tu vois. Et donc on s'est dit il y a un truc à faire en vrai là-dessus.
Okay. Et comment vous avez pensé à votre format aujourd'hui de débat?
C'est venu de en fait, tu vois, il y a le confinement. Donc l'aventure continue. D'ailleurs, je crois que c'est une année après. Hein, je t'ai dit décembre, mais je crois que c'était une année après.
Okay.
L'aventure continue. On continue. On passe à la vidéo. Du coup, on passe à la vidéo et on fait des vidéos, mais
sur YouTube en priorité avec pareil des petits bouts que tu mets sur les réseaux sociaux.
Ouais, mais c'est vraiment très mal fait. On a vraiment pas l'expérience du tout. On fait ça de manière très maladroite.
C'est vous qui tournez les vidéos en mode.
On fait tout de A à Z. Genre,
c'est
vraiment,
toi qui fais ton Hugo Décrypte et qui va te parler d'actualité.
Vraiment, c'est ça. C'est des gens qui écrivaient des articles avant sur le crayon, qui font des vidéos encore, qui nous aident et qui avaient éditorialisé ce qu'ils faisaient. Ils le font maintenant en face cam, etc.
Il y a plus de coûts, non, à faire de la vidéo par rapport à l'article ou c'est ISO de leur téléphone,
oui,
matos?
Bien sûr, oui, mais niveau matos, un téléphone, ça suffit. Quoi.
Ça suffit. Et le montage, ça prend pas tellement.
Et plus. Montage, en fait, on a appris sur le tas. Genre, petit à petit, en se mettant au début, le premier ring qui a été publié, la première grosse vidéo qui vraiment nous a confirmé de ce qu'on voulait faire et que c'était ça qui plaisait, c'est Val qui l'a monté sur un MacBook Air qui date de 2015 sur Final Movie, Cut, ouais, qu'on avait craqué, quelqu'un nous avait passé, qu'on avait réussi à avoir, tu vois. Genre, c'est un délire, le truc planté toutes les 15 secondes étant vraiment non, ça plante, on relançait l'ordi, enfin une galère pas possible. Et d'ailleurs tu le vois dans les termes techniques, enfin dans les trucs techniques, quand tu vois la vidéo c'est catastrophique, mais ça a été une vidéo qui a très bien marché. Et du coup de là, en fait, il y a eu le confinement c'est en 2020 le confinement.
Ouais, ça, mars 2020, quelque chose comme ça.
Voilà, mars 2020, il y a le confinement. Et là, avec Val,
là, ça faisait un an que vous étiez passé au format vidéo.
Un peu moins. Bah, je crois que c'est décembre. Ah, attends. Oui, c'est ça. Ça faisait un an qu'on
était. Ça marchouillait,
mais.
Zéro business model,
ouais,
pour l'instant.
Vraiment, c'était en mode on croit au projet, résilient à fond.
Parce que
mais...
Là, ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans que tu comptes le crayon politique, ouais.
Ouais, ça fait 2 ans que tu t'es lancé. Ça fait, t'es toujours pas diplômé, t'es encore étudiant ou...
Justement, ouais, je suis encore étudiant. En fait,
Val aussi, tout le monde est encore étudiant.
Tout le monde est encore étudiant.
D'accord, c'est ça qui vous sauve.
Ouais.
Sinon, en temps normal, ouais.
Exactement. Ouais, sinon.
T'as pas les sirènes des entreprises qui te proposent.
Mais c'est pour ça que j'étais autant acharné. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être ma porte de sortie aussi. Je vais peut-être pas avoir besoin de taffer et peut-être que je vais pouvoir continuer sur le crayon.
Non, je dis pas avoir besoin de taffer.
Ouais.
Non.
Bah ouais.
Oui,
bah
c'est ta passion, donc tu vis ta passion.
C'est un kiff, tu vois.
Travail,
ouais. C'est un taf, hein, mais c'est un kiff. Ouais, c'est un vrai kiff. Et donc on fait ça en mars 2020, il y a le confinement, et je me confine avec Val. Et là, Val et moi, on pense le truc. Donc, il faut savoir, c'est que déjà, on avait tourné quelques trucs, notamment le débat qu'on a publié, genre juste avant le confinement, le débat qui est un débat sur le féminisme, qui a extrêmement marché, qui nous a fait connaître sur les réseaux sociaux.
Donc là, le débat, donc c'est ce que vous appelez le ring, c'est votre format.
Exactement.
Hein, comment vous avez pensé ce format?
En fait, ouais, t'as raison de me poser cette question. En fait, du coup, on voulait organiser des débats, on voulait que les gens discutent, parlent, et on s'est dit...
Parce que là, tu fais des vidéos, en mode Hugo décrypte, ça marchouille et tout, et à quel moment tu comprends qu'en fait... Parce que c'est ça, votre secret de sauce, c'est de mettre des débats que personne fait vraiment, à part Hanouna, on va dire, si je caricature, peut-être que j'ai faux, mais Hanouna, BFM, tout ça,
ouais, bien sûr.
Les débats et tout. Comment... Vous dites, ok, attends, un format vidéo, YouTube, tout ça, avec que des débats, avec des gens qui, a priori, sont super opposés, ça peut être marrant. Comment vous pensez à ça?
En fait, ce qui nous fait marrer, c'est qu'on se dit, moi, je suis pas mal de gens qui sont d'un point de vue, qui ont, tu vois, les influenceurs, c'est vraiment ils ont un avis et ils le tiennent et ils sont engagés dans cette cause, notamment dans une cause, etc. Moi, je suivais des personnes, Val suivait des personnes aussi, et on se rendait compte, nous, même nous, entre nous, qu'on suivait pas forcément parfois les mêmes personnes. Et on s'est dit, mais en fait, ça pourrait être intéressant de se dire, qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là se rencontrent? Qu'est-ce qui se passe si on arrive à les faire discuter, en fait, ensemble? Et ça, c'était un pari fou, parce qu'en vrai, n'importe qui, en vrai, quand tu commences à avoir cette idée, tu dis, non, mais en fait, ils vont jamais vouloir se parler, c'est mort, c'est terminé. Et ça a été un travail de longue haleine, de convaincre, de dire, mais non, t'inquiète pas, ça va être intéressant, ça va être super cool. Enfin, et vraiment, parce que nous, on était convaincus, et on est toujours, que c'est super intéressant et que c'est vraiment, un truc à faire, tu vois. Et donc, c'est des échanges avec les personnes, c'est leur proposer, c'est des trucs qu'on propose, en fait, quasiment pas aux gens aussi. Mm-hmm. Et donc, les personnes, en vrai, acceptent. Et du coup, on a notre premier débat qui...
C'est entre qui et qui ?
C'est entre Julien Rojdi et Louise Aubéry.
Qui sont ces personnes ? Est-ce que tu peux nous...
Alors, Julien Rojdi, c'est un militant de droite que certains même diraient d'extrême droite. Hein. Il a participé, il faisait partie des jeunesses du Front National, tu vois, par exemple. Okay. Donc, c'est un mec... voilà. Et Louise Aubéry, qui est une influenceuse qui est très axée, elle est toujours, hein, mais sur le body positive, qui était très axée sur le body positive. En gros, acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes une femme, il y a pas de souci. Maintenant, allez.
Acceptez vos défauts. Hein.
Exactement, c'est ça. Et du coup, nous, c'est des personnes qu'on regardait et on s'est dit, en fait, on peut les faire se rencontrer, tu vois. Et là où c'est un truc qui est pas forcément fait, c'est que t'as des gens qui sont en fait sur des trucs très extrêmes. Qui sont sur des trucs où s'il y en a un qui regarde, enfin, les deux sont haïs et sont détestés en fait par deux personnes qui sont à l'opposé, tu vois. Et en fait, nous, on se dit, mais en fait, on va arrêter de rester dans des bulles, de chacun voit pas, nanana, je veux pas entendre, lui est là, elle est là, on se parle pas. On va les faire se réunir. Et en fait, c'est avoir des personnes qui représentent ces communautés-là, les mettre en débat et les faire.
Sur quel sujet tu les fais débattre là ?
Là, on les a fait débattre sur le féminisme.
Ok.
Tu vois, ce qui était un sujet, en vrai, là, aujourd'hui, c'est un débat, aujourd'hui, je pense, je sais pas si on referait exactement le même dans la même condition, mais à l'époque de l'état actuel du débat où c'en était, ça avait sa pertinence et c'était très cohérent de le faire, tu vois.
Ok.
Et donc, ok. Et donc, voilà. Et donc, en vrai, ce débat-là, il nous fait connaître sur YouTube. Il fait notre première percée où on existe. On devient, on a les premières vues, les premiers abonnés, les premières personnes qui comprennent ce qu'on veut faire, etc.
Tu sens que tu as du premier buzz sur ce truc-là.
Ouais, clairement.
Direct, instantanément.
Les gens
te repartagent.
Tu sais assez rapidement, ouais.
Tu le sens, tu vois les commentaires exploser,
ouais.
Etc.
Ouais, clairement.
Ok.
Clairement, et là...
Là, on est à quel moment? Parce que tu m'as parlé du confinement. On est juste avant le confinement, après?
On est juste avant le confinement.
Juste avant, ok.
Le confinement se lance et du coup le confinement arrive et Val et moi on se confine et on repense un peu tout ce qu'on a fait. Parce que ce débat on l'a fait un peu de base sur un...
Ça devait être frustrant parce que tu sens que tu commences à avoir un peu de traction, confinement, putain merde, on coupe les
ailes. Mais en même temps c'était cool parce que ça nous a donné un peu de temps aussi pour bien réfléchir. Et du coup voilà, tu vois, ce premier débat c'était un coup de... On s'est dit on a trop envie de le faire, on le fait. Mais en même temps il n'y avait rien vraiment de... On savait pas c'était quoi l'étape d'après, on s'est dit c'est des débats, c'est cool, c'est ce qu'il faut faire, mais on savait pas vraiment. On l'avait fait parce qu'on avait l'opportunité de le faire, on l'avait fait, tu vois, mais en fait, il fallait organiser le truc, tu vois. Et donc, du coup, le confinement nous a permis ça. Avec Val, on a passé le confinement tous les deux, du coup, on était aussi en call permanent avec Sixtine et Jules, mais tu vois, c'est là où on a vraiment dit, bon, on va faire tel format, tel truc. Et à l'époque, on était des fous, genre, le crayon, pour nous, c'était le crayon business, le crayon sport, le crayon politique, le crayon. On avait tous des crayons au sein du média et de la chaîne YouTube. On s'est dit on va faire un pôle média avec tous les trucs dedans dans le crayon. Et
sauf que le crayon sport ça s'appelle RMC déjà, non?
Mais ouais, mais en vrai tu vois, on a, tu vois, avec Daniel Riolo, c'est des trucs, c'est typiquement ce qu'on voulait créer, tu vois. Mais bon, en fait c'était, on l'a fait, du coup en sortant du confinement on a fait les trucs, on a publié vraiment, on a été des acharnés. Bon, déjà il faut savoir que en sortant du confinement moi je passe mes examens, Val passe ses examens, on arrive de justesse à les passer, on passe et moi je me dis ok, là je peux pas.
Donc là vous êtes diplômés les deux, vous avez votre master et...
Moi j'ai mon master 1, ouais, j'ai mon premier master, là je me dis là je peux pas continuer il faut que je fasse un choix, tu vois. C'est pas possible. Je vois que le crayon, avec Val, on a réfléchi sur des trucs, machin, c'est incroyable. Je sens qu'il y a vraiment un truc. Je sais pas si, tu vois, moi, comme je disais, j'ai pas forcément cette notion de base, j'avais pas cet esprit entrepreneurial. Et même pour moi, l'argent, c'était même pas.
Donc tu te dis pas, parce que moi, là, avec ma vision entrepreneuriale, je me dis, t'as commencé à avoir un peu de traction sur un truc qui commence à être prouvé, etc. Peut-être c'est le moment d'aller lever un peu de fonds, d'aller voir un business angel, d'aller lui prendre 100 ou 200 000 balles.
Pas du tout, parce que notre modèle, il n'est pas du tout prouvé. Ouais. On est un peu aussi en mode, bah, nous, on a envie de bootstrap aussi, tu vois, de montrer qu'on est capable de le faire seul, d'être... on se voit vraiment, et on a encore cette image aujourd'hui, et je pense qu'on l'aura toujours, on se voit vraiment comme des rebelles. Okay. Genre les rebelles dans Star Wars de... en fait, avec un bout de bois, on va faire la révolution et on s'en fout, tu vois. Okay. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et on n'a pas besoin de ton arme super, super bien et tout, on s'en fout. Nous, on sait que notre idée, elle est bien et on va y arriver quoi qu'il arrive, tu vois. On a un peu cette idée-là. Et donc, on se dit, vas-y, on fonce. Et donc, moi, je décide de prendre une année de césure sur mes études. Du coup, je fais le choix du crayon. Val lui a terminé, et donc moi je me retrouve là à plein temps avec Val, à plein temps là cette fois-ci, parce qu'avant j'alternais, j'étais sur mes études, je venais un jour sur deux, un jour sur trois on se voyait, et encore on s'appelait tout le temps, tu vois, mais c'était compliqué. Et là on arrive sur le projet à plein temps, et là on commence à dérouler les interviews qu'on avait prévues. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que ce qui plaît à notre audience, peut-être de par la première vidéo qu'on avait faite, peut-être de par plein de trucs, c'est le contenu politique.
Et comment vous structurez votre approche? Globalement, vous vous dites, ce serait quoi, les débats sympas, ou plutôt, voilà les gars qu'on peut avoir?
Et là, les débats, pour te dire, on n'a même pas organisé des débats. Pour l'instant, là, on se dit, on va faire des interviews. Parce qu'en fait, c'est con, mais c'est le plus simple à faire. Tu vois, même avec le podcast que tu fais et tout, tu vois, faire des interviews, inviter quelqu'un pour qu'il parle de lui, pour qu'il parle de son projet et tout, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui en plus est super intéressant. Et nous, on est comme des gosses, tu vois, on voit, t'as Nathalie Arthaud qui vient chez nous, t'as Cédric Villani.
Comment tu les chopes, ces gens-là? Parce que là, à un moment donné, t'es personne, entre guillemets, c'est-à-dire que t'es un média qui a fait une fois un truc qui a buzzé à peu près avec des gens qui sont pas non plus des méga stars. Comment tu fais
Mais en vrai, je dis, on avait genre 3000 abonnés sur YouTube. Hein. Okay. Pour nous, c'était la folie. Hein,
donc ça restait, d'un point de vue d'un ministre ou quoi, c'est faiblard. Oui, comment est-ce que tu fais pour avoir le premier... Enfin, c'est qui, du coup, les premiers invités que tu chopes, et comment tu les chopes?
En vrai, c'est... je vais te raconter deux histoires pour t'illustrer un peu tout ça, pour t'illustrer à quel point c'est un taf de monstre. Et parfois des petits coups de pouce qui te permettent d'avoir l'effet boule de neige, en fait, qui fait que les gens te trouvent de plus en plus respectable et apprécient ce que tu fais. Premier exemple, c'est j'étais pote avec une meuf qui habitait dans le Marais, et un jour elle me dit elle nous avait aidé sur le crayon, elle avait travaillé un petit peu avec nous. Et elle me dit, ouais, là, Anto, il y a la friperie de Bob Sinclair juste en bas de chez moi. Et là, tu vois, là, c'est l'état d'esprit de vraiment, ok, là, on n'a pas le choix, il faut que j'y aille. Exactement. Et que je porte mes couilles et que j'aille dire à Bob Sinclair, en fait, je suis personne, mais viens sur mon média, s'il te plaît. Et donc, du coup, je lui dis, ouais, essaye d'aller le voir, lui parler, moi, en attendant que j'arrive, etc. Et du coup, j'arrive chez elle me dit, ouais, machin, il est juste là et tout. Et je vois qu'il est là, et du coup, on descend ensemble. Je vais le voir, et en fait, le mec, trop sympa. Genre vraiment trop sympa. Je vais le voir, je dis, ouais, excuse-moi, j'adore vraiment ce que tu fais, c'est trop cool et tout. Moi, j'ai fondé un petit média, ça s'appelle, je dis petit média, tu vois, à l'époque, un truc que je dis même plus aujourd'hui. J'ai fondé un petit média qui s'appelle Le Crayon, on est une chaîne YouTube, ça nous ferait trop plaisir de t'avoir et tout. On parle de plein de sujets. Parce qu'à l'époque, comme je te rappelle, on était culture, politique, société, machin. Donc là, je dirais, ouais, donc pour moi, dans ma tête, c'est dans le crayon culture qui va rentrer, mais bref. Et je dis, ouais, ce serait trop cool et tout de t'avoir. Il dit, ouais, ok, pas de souci, prends mon num, prends le num de je sais pas qui, mais donne le num d'une personne. Et du coup, c'est Victoire qui gérait ça. Donc, Victoire a à la fin parlé avec la personne et m'a donné le contact de la personne qui me dit, ouais, non, mais t'inquiète, mais gère direct avec Chris, qui s'appelle Christophe Bob Sinclair. Et du coup, je me retrouve à discuter avec Bob Sinclair sur WhatsApp. Ça n'a aucun sens. Et en fait, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Et du coup, on l'invite, il accepte, trop gentil, vraiment. Il me demande où est-ce que c'est, le truc où on doit faire le truc. Il vient, hyper simple, vraiment trop sympa. Et en fait, du coup, on a une interview de Bob Sinclair. Et là, quand tu sais que t'as une interview de Bob Sinclair, t'es en mode, ok, c'est un truc qui vaut quelque chose, tu vois. Ça vaut pas rien, en fait. C'est pas monétisable parce qu'on est personne.
Et combien de temps tu passes avec Bob Sinclair? Et est-ce que il est pas chiant? Donc, il y a même pas un attaché de presse ou quoi? Il y a rien, c'est toi et lui.
Non, vraiment. Et c'est, en fait, c'est... quand les, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte pour beaucoup de personnes qui font du, qui travaillent dans le relationnel, c'est le plus dur, c'est d'avoir de connaître une personne qui connaît la personne. En gros, si tu connais une personne qui connaît la personne,
t'es introduit,
la personne est en confiance. Ça, c'est...
Il avait regardé vos vidéos avant ?
Non.
C'est marrant parce que vous auriez pu être un média d'extrême droite, il aurait pas su quoi.
Les gens en vrai ne regardent très peu ce que tu fais quoi. Et ce qui est bien, ce qui est avantageux pour les médias en fait. Mais après quand t'es vraiment un média, quand t'es vraiment un média hard et tout, en vrai les gens quand même, ouais. T'as des trucs, les gens disent ouais fais gaffe machin. Donc
du coup tu tapes Bob Sinclair, tu lui fais l'interview.
Ouais,
et ensuite
trop sympa, vraiment tout se passe bien. Et du coup ça c'est un truc qui a pas fait enfin sur le coup ça avait fait pas mal de vues, mais c'était comparativement à ce qu'on peut faire et tout aujourd'hui, c'est pas un truc qui avait fait énormément de vues, mais c'est un truc qui nous a permis de nous installer, de dire bah voilà, en fait parce qu'à l'époque on faisait beaucoup d'interviews d'artistes aussi, bah voilà.
Vous avez parlé de quoi avec lui, vous avez de sa carrière ou
sa carrière, de pas mal de choses.
Vous aviez pas encore le truc, enfin là c'était pas débat.
Pas du tout, vraiment pas, c'était vraiment culture. Là c'était axé culture. Bon là c'est un exemple, tu vois, je te montrais Bob Sinclair, c'est vraiment il était dans un endroit. Okay. Il faut avoir ses couilles, il faut porter ses couilles et se dire bah en fait je vais le voir et je vais lui proposer, tu vois. Mais il faut quand même faire ce truc et pas se dire non, de toute façon Bob Sinclair je l'aurai jamais et tout. Juste vas-y et tu verras ce qui se passe.
Et après tu peux le leverer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que t'appelles un artiste tu fais voilà, on a eu plein d'artistes, notamment Bob Sinclair et plein d'autres, alors qu'il n'y en avait que lui, mais
exactement.
Et t'y vas quoi.
Et en vrai beaucoup de personnes étaient à chaque fois putain c'est trop cool ce que vous avez fait avec Bob Sinclair, c'est incroyable et tout machin. Et donc c'est un truc qui,
et tu jouais sur le côté ah on en a d'autres dans le pipe, tu vas voir c'est incroyable, je peux pas encore dire pour les chauffer ou pas du tout.
En vrai moi je suis pas trop comme okay, ça okay. Mais oui en vrai je pouvais aussi, bah, c'est un truc que tu fais, c'est un truc qui est induit aussi, parce que après les gens ils savent pas ce que
t'as,
mais tu
peux sans mentir, mais un silence peut
exactement,
plein d'interprétations.
Je préfère ce mode là, mais voilà exactement. Mais donc là il y a ça. Et un autre exemple, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a été adorable avec nous et qui a été incroyable. C'est
ancienne ministre, hein, pour
ancienne ministre, ouais, exactement, ancienne ministre de l'éducation nationale, qui est, enfin pour nous c'était un truc de fou quoi, genre Najat Vallaud-Belkacem, c'est, enfin ça représente quelqu'un, c'est.
Elle était en poste à l'époque ou
non,
c'était
elle déjà, était pas en poste,
c'était Macron déjà.
Ouais. C'était déjà Macron, ouais. Ouais, okay. Macron c'était déjà depuis un moment. Et en fait on lui envoie un mail parce que on avait réussi à avoir, je sais plus trop comment, une adresse mail. Les gens nous répondent mais sont un peu en mode oui bon c'est bien gentil mais pas très intéressé quoi, parce que des attachés de presse maintenant je me rends compte, tu reçois des mails toute la journée de médias qui veulent soit recevoir soit qui te proposent d'aller sur le média, bref. Et donc voilà, Jules va à une manif féministe, je sais plus c'était quelle marche, bref il va à une manif, il la voit.
Mais c'est pas intéressé, juste il y allait pour y
aller. Non, il y allait en mode lui, il y allait.
Blague à part, si on est un peu cynique, c'est le meilleur endroit pour trouver des politiques. Ouais. Tu vas à une manif,
c'était même pas cynique.
Tu sais qu'ils sont au premier rang. Ouais.
Mais c'était même pas de manière
cynique. Ouais, non, je sais, mais...
Et il la voit. Et tu sais, c'est en mode ah putain, il y a Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, machin. Et donc là, et c'est un truc aussi, je pourrais te parler après, mais c'est la force du collectif. Et aujourd'hui, on est vraiment comme une vraie. Je sais pas. Je dirais pas forcément famille, parce que c'est un peu, parfois ça fait un peu bizarre, ça peut faire bizarre et tout, mais on est vraiment hyper soudés, tu vois. Et on est en mode, bah Jules, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses pour nous, tu vois, pour le...
Pire pressure.
Okay. Et du coup, mais en vrai, tu vois, c'est un truc qui fait plaisir aussi, parce que quand t'as tout le monde qui dit, en fait, il faut que tu y ailles maintenant, on t'en voudra pas si tu le fais pas, mais
t'as
là,
pas le choix,
ouais. Responsabilité, il faut le faire, tu vois. Et du coup, Jules y va, il dit, ouais, on a envoyé un mail, machin, fait, ok, envoyez-moi le mail. On envoie un mail, pas de réponse. On arrive à avoir un autre contact. Donc là, on envoie un mail. Après ça, pas de réponse non plus. On arrive à avoir un autre contact. Je sais plus comment, parce qu'on avait invité d'autres personnes, etc. Et donc, on envoie un autre mail. Et là, enfin, ça se débloque petit à petit. Mais en fait, ça a mis plusieurs mois aussi à se débloquer, très certainement, parce que eux regardaient effectivement ce qu'on faisait et voulaient voir
pour le coup,
si
ouais.
On était sérieux, à quel point on allait. Et en fait, ils ont attendu vraiment qu'on avait. Mais tu vois, c'était une rencontre, des mails, d'autres mails, des personnes qui connaissaient potentiellement de trucs, machin. Tu vois, on est allé voir
faut
des
pas
gens.
Lâcher, ouais.
Exactement. En fait, faut pas lâcher. Tu veux nager dans le KSM.
Tu l'as.
Faut pas
et quand tu l'as chopé, après, ça t'a ouvert facilement les autres politiques? Parce que vous avez des belles références de politique.
Ouais, mais en fait les politiques aussi, c'est un des atouts qu'on avait, c'est les politiques ont très envie de parler aux jeunes aussi. Okay. Donc, et bref, voilà. Mais...
Revenons à l'évolution du média. Donc là, fin du confinement, t'es à plein temps, tu commences à avoir Bob Sinclair, Najat Vallaud-Belkacem, etc. Comment ça se passe niveau traction, etc., niveau vision aussi, parce que tu disais qu'au début vous vouliez faire plein de trucs différents, ouais. Mais en fait vous étiez une équipe très restreinte.
Exactement.
Donc c'est pas possible. Et comment tu opères la mue vers le média qui cartonne avec des débats qui enflamment les réseaux sociaux?
En vrai, c'est petit à petit. C'est vraiment écouter à la fois son audience et ce que les algos peuvent faire aussi avec le contenu que tu leur proposes. Mmh. Et on voyait de plus en plus que le contenu n'était pas politisé. Parce que parfois, tu vois, parfois on publiait du contenu business, parce qu'on avait un axe business aussi dans le truc, on publiait du contenu business qui faisait des vues. Hein. C'est bizarre, hein, ça fait des vues, c'est business, alors que normalement c'est plus les politiques qui font des vues. Et en fait, on s'est rendu compte que t'avais tout un système, ce qu'on appelle l'audience cachée, de gens qui peuvent être intéressés par un sujet, qui en fait sont intéressés aussi par un autre sujet, mais parce que derrière, il y a une lame de fond qui est commune aux deux sujets. Je sais pas, je pourrais te la faire très courte, mais il y a des gens qui sont intéressés dans le business parce qu'ils ont cette notion de liberté et qui vont se retrouver dans l'idée de politique parce que tu peux avoir des concepts de liberté dans la politique de en fait tu peux être indépendant, tu peux t'en sortir, et donc il y a certains sujets entre la business et politique notamment, mais t'en as plein d'autres qui étaient communs. Vous pouvez le trouver aussi en culture, en politique et tout, mais bref. Et du coup, de là, on s'est dit, en fait, ce qui intéresse vraiment notre audience, c'est les sujets politiques, société. C'est pas les sujets business, en fait, c'est pas les sujets culture, c'est pas les sujets... C'est vraiment politique, société.
T'as mis combien de temps à comprendre ça ?
Longtemps, ouais. Bah, longtemps, parce qu'on est des acharnés. Et,
c'est ça qui est beau, c'est que parfois, tu comprends des trucs dans un business qui te semblent évidents, mais il faut passer
heureusement qu'on a passé
pour comprendre ça. Ouais.
Et surtout, il fallait qu'on accepte. Il fallait qu'on accepte que, en fait, notre chaîne n'allait pas être du business, de la culture, de machin. Il fallait qu'on accepte. Mais pour accepter ça, il fallait passer par le côté,
par avoir vécu assez d'échecs pour comprendre qu'en fait.
Exactement,
ça.
Exactement. Et du coup, on décide de se focaliser vraiment de plus en plus sur les interviews politiques et les débats qu'on a repris du coup et qu'on a compris que c'était
ça. Donc c'est au moment où tu te dis, ok, on focus politique. Là, tu dis, c'est quoi qui marche mieux ? C'est les débats en mettant deux gars super opposés et on les fait débattre sur des débats d'actualité, j'imagine, autant que faire se peut.
Ouais, alors c'est là aussi on a voulu se positionner directement, c'est qu'on s'est dit, on pourra pas faire la course aux médias qui existent déjà, qui sont spécialisés dans l'actualité. Dans les médias digitaux qui peuvent être spécialisés dans l'actualité, on s'est dit on ne pourra pas faire la course, c'est pas possible. Et on n'a pas d'intérêt. Et puis nous, en fait, l'actualité en soi, c'est pas ce qui nous passionne le plus. Nous, ce qui nous passionne, c'est les idées. Donc on va faire un truc qui nous passionne et on espère que ça intéressera les gens aussi. Et du coup, on a fait sur les idées. Donc on s'est dit on va pas faire d'actualité parce qu'en fait, ça sert à rien de courir après l'actualité. On va s'épuiser comme des malades. On n'est pas beaucoup dans l'équipe. Non. Du coup, on a fait des sujets de société. Et ça a été notre ligne de dire on va faire des sujets globaux, intéressant de société, mais pas des sujets genre typiquement là aujourd'hui si on était au début du crayon la réforme des retraites, on n'en aurait pas parlé. Parce qu'en fait faut trouver un gars tout de suite maintenant, truc machin, en fait trop compliqué. Faisons un sujet large, général. Typiquement on a fait les premiers débats qu'on a fait, tu vois, c'est le féminisme, l'antiracisme, tu vois, des sujets très, le véganisme, la chasse, des sujets très larges qui en fait sont universels et intemporels et qui peuvent intéresser encore...
Ouais, qui suscitent des vrais débats.
Exactement.
L'uniforme à l'école et tout comme
exactement.
Ça.
Exactement. Parce qu'on n'a pas fait l'uniforme à l'école d'ailleurs, mais c'est un débat qu'on aurait...
Toujours des pour, toujours des contre.
Exactement.
Et il y a souvent... Ouais, tout le monde a son curseur d'un côté ou de l'autre, quoi.
Exactement.
Et donc ça t'a permis... À quel moment tu sens ce petit déclic, se dire « Ok, là on buzz de ouf, faut pédaler dans la descente. »
En vrai, c'est très difficile à dire. Parce que tu le réalises en fait jamais. Même là aujourd'hui, je te dirais.
Ouais, on est encore très loin de ce qu'on veut.
Je te dirais, en vrai, il y a tellement de trucs qu'on veut faire que là, c'est fou hein, ce qu'on a déjà fait. En vrai, c'est incroyable. Et on a déjà bien réussi, tu vois. Mais en vrai, c'est dire. Je suis très exigeant là-dessus en mode, en fait, il y aura toujours un truc à faire. Donc en vrai, c'est très difficile de dire. Moi, je pense que vraiment le moment où je réalise que c'est sérieux, c'est quand j'essaie d'arrêter mes études. Parce que du coup, j'ai fini une césure et je décide de. Pas prolonger mes études et de dire, mais en fait.
Et à ce moment-là, t'étais capable de te payer sur la boîte ?
Non.
Toujours pas.
Okay. Toujours pas.
Donc tu vois qu'il y a tellement de traction, tu te dis, c'est bon, je suis sur un truc que je lâcherai pas.
En vrai, ouais. En vrai, je suis. Mais tu vois, c'est un truc, se dire, je vais y aller, on va voir. Et en vrai, au pire, je reprendrai mes études, même si mon master, il devient caduque, parce que je sais pas si, même pas si un master 1, ça se périme ou pas, mais s'il devient caduque, je reprendrai à partir du master, et c'est pas grave, ça sera relou, ça sera des galères, mais là, tu vis tellement des émotions folles et incroyables que tu deviens un peu drogué au truc, tu vois.
Des émotions liées au métier du journaliste ou liées à l'entrepreneuriat?
Je pensais que c'était lié au côté journaliste, au côté on rencontre des gens, c'est fou et tout. Et en vrai, je me rends compte que c'est le côté entrepreneurial, parce que toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui qui sont dans le milieu entrepreneurial, ils ont eu les mêmes émotions. Mmh. En fait, parce que tu te rends compte que t'es le capitaine à bord, quoi. Et si tu fais rien, bateau est cool.
Non, mais le roller coaster d'émotions.
Ouais. Mais, c'est, mais en fait, c'est juste. C'est
en haut et en bas aussi, ouais.
Ouais, c'est exactement. Tout le temps, le lendemain, tu te couches, tu sais pas si demain, ça, ton truc va encore tenir, si les gens vont apprécier. Puis nous, on fait un truc où c'est, ça dépend du public aussi, ce que les regardent les gens, ce que les gens font. Mmh. Et du coup, les gens, si t'as un commentaire négatif, on est tellement acharné que, bah, on va dire, bon, continue et on va améliorer ce qu'on a dit. Mais en fait, ça reste un coup. C'est...
Tu parles d'un sujet intéressant parce que là, tu parles des commentaires négatifs.
Ouais.
Aujourd'hui, sur, encore plus quand t'es un média. Qui utilisent très bien les réseaux sociaux, tu te retrouves avec, je pense, énormément de haine tout le temps, de la modération, des gens qui doivent te dire t'es une putaclic, des gens qui doivent te dire dans l'autre sens ouais, vous êtes d'extrême droite, ouais, vous êtes d'extrême gauche, ouais,
ah, évidemment.
Vous êtes con, ouais, c'est de la merde. Bah, tu vois, un gars comme Hanouna, par exemple, que ni je défends ni je défends pas, je m'en fous, mais ce gars-là, il prend une haine de ouf. Pourtant, il y a des gens qui doivent l'adorer parce qu'il fait une tonne d'écoute. Et vous êtes, j'ai l'impression un peu de cette veine-là, le fait de vouloir faire beaucoup de débats, etc. Ça, c'est très propice au débat et donc à la haine en ligne. Comment est-ce que vous traitez ça? Comment est-ce que vous le vivez? Ça va pas être facile de se prendre des torrents d'insultes, je pense, à chaque fois que tu postes des trucs.
Ouais, bah en vrai c'est
même dans ton entourage, je finis ma question.
Ouais,
même dans ton entourage, il y a peut-être des gens qui viennent te dire Antonin là, ce truc que tu nous as fait avec une actrice porno et un prêtre là, ça va trop loin, c'est n'importe quoi. C'est quoi la suite? Vous voulez mettre un nazi avec un juif? Ça n'a pas de sens, tu vois. Comment est-ce que tu joues sur cette limite là? Enfin, bon, donc du coup,
ouais, bien sûr.
Comment tu gères les mauvais commentaires et comment tu places ta limite en fait dans le sans sas?
En vrai, c'est un vrai sujet parce que on a que ce soit en fait le problème des débats, enfin le problème, et à chaque fois ce qui est génial, c'est que tous les personnes n'est content, mais tout le monde regarde en fait parce que tu veux. Quand je dis tout le monde est content, c'est pas vrai parce qu'in fine, le but quand même, c'est que t'aies appris des trucs et que tu t'en ressortes grandi. Mais en tout cas, les gens qui sont vraiment très politisés et qui sont très dans un camp de l'un ou de l'autre d'ailleurs, en ressortent ou ont cette appréhension. Et te catalogue comme attends, tu peux pas parler avec cette personne là, c'est pas possible. Mais que tu sois d'ailleurs d'extrême gauche ou d'extrême droite, tu peux pas parler avec quelqu'un d'extrême droite. Enfin, tu laisses la parole, tu propages leur parole, c'est pas possible de faire ça. Et inversement, quelqu'un de droite ou d'extrême droite qui va te dire mais tu peux pas laisser ces mecs là qui vont détruire la France, c'est n'importe quoi, tu peux pas faire ça. Et donc du coup, tu te retrouves à être au milieu dans un camp ou pas dans aucun camp, tu vois, et tu peux pas choisir. Donc en vrai c'est très paradoxal, mais en vrai on le prend avec ce truc un peu de on le prend pas personnellement, on est conscient que ce qu'on va faire va générer de l'incompréhension de certains côtés, etc. Mais on est persuadé que c'est fondamentalement ce qui fera que les personnes in fine vont réfléchir, se réunir et s'apprécier, en fait, même si c'est très difficile, ça paraît lointain, ça paraît quasiment impossible, en fait, rendre acceptable le débat entre deux personnes que on n'aurait même pas imaginé acceptable, déjà le rendre acceptable dans une société qui est de plus en plus fracturée, qui vit dans des plus débuts, les gens veulent même pas parler à d'autres, rendre acceptable le fait que deux personnes puissent discuter, déjà c'est une victoire. Et du coup, publier la vidéo, déjà pour nous c'est une victoire, et le travail est quasiment déjà fait, tu vois. Après, quand les gens font des retours, on est évidemment sensible aux retours, notamment sur la forme et le fond qu'on peut faire. Typiquement, quand on nous dit là, cette personne là c'était peut-être pas la personne appropriée pour parler de ce sujet, ou c'était pas... quand t'as vraiment des commentaires techniques qui nous disent comment améliorer les émissions, évidemment qu'on est hyper sensible à ça.
Vous les lisez tous? Vous pouvez tous les lire?
En vrai, moi personnellement, je les lis pas tous. Je pense que déjà ce serait en vrai c'est pas possible, tu vois, au rythme on publie et au truc on lit les principaux commentaires dans les premières minutes, dans les 10-15 premières minutes qui sont publiées, on regarde tous les commentaires. Après, les vidéos tournent et tu peux pas, c'est pas possible de suivre, tu vois, il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, c'est pas possible. Et du coup, on est très attaché à ça. Et et un sujet auquel on est super sensible aussi, c'est la haine que peuvent se recevoir nos invités. Parce qu'en fait, ça, on s'en rend pas compte. On se dit, ouais.
Tu les exposes, ouais.
Parce que nous, ok, mais nous, en fait, on publie la vidéo, on est très peu impacté. Nous, on a le rôle du médiateur.
Mais c'est vrai qu'en mettant le mec de la corrida avec l'anti-corrida, t'exposes celle qui est anti-corrida à tous les pro-corrida en disant, ah, t'es une connasse, t'es contre la corrida. Et inversement pour le pro-corrida.
Et ça, honnêtement, c'est un sujet qu'on avait. En vrai, on s'est dit, oui, bon, en vrai, les personnes viennent parler. C'est sûr qu'elles prennent de la haine, et je pense que c'est pas la première fois qu'elles prennent de la haine. Mais on s'est rendu compte que franchement c'était super hard. En vrai, il y avait des trucs où les gens qui venaient débattre chez nous après, en fait, et le truc, c'est à quel point on se, c'est moi, excuse-moi. C'est à quel point on se rendait pas compte de ça, c'est qu'en fait, bah, en mettant forcément face à face des personnes qui ont des bulles, en fait, moi j'aime bien imaginer ça, imaginer par ça, ça par des bulles. Mm-hmm. Quand t'es dans une bulle et que notre bulle, nous on fait se rencontrer les bulles, et forcément t'as des gens d'une bulle qui vont aller voir l'autre en disant, bah en fait, ouah, t'existes, attends, ouah, c'est méga hard ce que tu dis, en fait, c'est pas possible, et qui vont harceler, menaces de mort, insultes, enfin des trucs super hard. Et en vrai, ça, c'est un truc qu'on a. Auquel on fait hyper attention et auquel on fait super gaffe parce que justement c'est propice à ça, donc ça va dans la modération de commentaires, faire attention à ce qui va être dit, est-ce que bah qu'il y ait pas d'insultes, qu'il y ait pas de propos en la loi, que les gens
mais après ils peuvent se les retrouver facilement sur Insta, sur Twitter,
voilà, ça reste le truc. Nous on reste évidemment à l'écoute des personnes si continuent à se recevoir des torrents de haine et tout, tu vois, mais c'est dur, et c'est le truc pour lequel vraiment ça c'est vraiment pénible et auquel on faut faire attention, quoi.
Comment tu gères du coup, après je finis sur ta ligne éditoriale, mais ce côté, bah si je mets des gens super extrêmes, ça va faire le buzz, mais d'un autre côté ça va pas vraiment faire avancer le débat, et moi je suis quand même un média, donc j'ai envie que les gens, en fait, plus c'est opposé plus ça fait le buzz, mais plus c'est opposé moins le débat va avancer
en fait, ouais,
et ça va être difficile pour quelqu'un, on va dire, qui cherche un peu son avis sur le sujet, ou quelqu'un de modéré que ça intéresse de voir les deux côtés, ben de faire évoluer un peu son avis.
Clairement notre but c'est pas de faire le buzz, et ça faut bien que ce soit clair pour tous ceux qui nous regardent et qui regardent ce qu'on fait. Notre but, c'est clairement pas de faire la vidéo qui fait 1 million. Et en fait, la vidéo fait 1 million, mais...
parce que le mec a dit des trucs outrageants.
Voilà, le mec avait dit des trucs comme ça. La personne s'est faite humilier. Imagine une vidéo horrible. Ah ouais. Genre, c'est un truc, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et vraiment pas. Nous, moi, je te dis, le goal de ce qu'on fait, c'est typiquement ce qu'on a fait avec le prêtre et l'actrice porno. Je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo.
J'ai vu le début. Elle est longue.
Ouais, elle est longue. Mais du coup, cette vidéo-là, elle a fait des vues. Elle était en tendance YouTube. Et elle est méga respectueuse. Les deux personnes se respectent, le débat est... Il n'y a pas du tout du clash ou quoi.
Parce qu'au final, ils ne sont pas vraiment opposés. Ils ont juste fait des choix de vie différents, mais il n'y a rien qui les oppose en termes de valeurs, etc. Bon, il y a des petites diffs, mais ce n'est pas pareil que la corrida pour ou contre, quoi.
Exactement. Bah, c'est deux types de débats différents, tu vois. Mm-hmm. Et l'idée, c'est de réussir à tendre à des débats qui justement, en fait, permettent de créer des ponts et des liens. Typiquement, le débat à la corrida est un débat qui est très bon aussi, parce que juste après, ils ont échangé leurs numéros et ils vont très certainement aller visiter. Des films suffisants, va certainement rencontrer, etc. Donc, et pareil pour le prêtre actrice porno, ils ont changé leur numéro. Lisa Del Sierra l'a invité le prêtre sur son podcast. Après, je sais pas, mais du coup, l'invité, et du coup, ils vont très certainement mener des actions ensemble parce qu'ils sont tous les deux contre le fait que les mineurs regardent du contenu pornographique. Et donc, tu vois, c'est ça, c'est vraiment créer des ponts, réunir, et c'est ça vraiment ce qu'on essaie de faire. Et après, c'est se dire, mais attends, il n'y avait jamais un prêtre et une actrice porno qui s'était parlé? Comment c'est possible que les gens trouvent ça aussi lunaire? Pourquoi c'est pas normal? Enfin, c'est évidemment, tu vois un prêtre, mais pourquoi? Et c'est ça qu'on a envie de mettre en place, tu vois, aussi.
Et donc, dans votre ligne éditoriale, là, vous essayez... Enfin, comment vous réfléchissez maintenant en termes de ligne éditoriale? Est-ce que c'est... Voilà le type d'invité qu'on peut avoir, par exemple, une tête d'affiche avec qui on le fait débattre? Est-ce que c'est plutôt faire une liste de sujets et essayer d'aller démarcher les gars? Comment est-ce que ça fonctionne?
C'est un peu tout, en vrai. C'est suivant ce qui nous intéresse, suivant les sujets qu'on avait envie de traiter, les listes de sujets qu'on a et qu'on a envie de traiter. Ça dépend aussi des personnes. Typiquement, il y a parfois des personnes qui sont très intéressantes et on les avait même pas vues, on les voit débarquer sur les réseaux parce que un tel est abonné et en fait on se rend compte qu'ils sont super intéressants et que ça peut être méga méga cool de parler avec eux, de créer un échange, plein de trucs. Parfois c'est des gens qu'on avait rencontrés, qu'on avait déjà fait débattre, et on se dit en fait sur ce sujet là ça peut être aussi super intéressant, et donc on peut faire revenir aussi les gens.
Parlons un peu business.
Ouais.
J'ai d'abord une question technique et ensuite une question d'argent.
Dis-moi.
Première question technique, c'est quand on va sur votre chaîne YouTube, etc., on voit des thumbnails,
miniatures.
Des miniatures super travaillées qui ressemblent un peu à ce que font Squeezie, etc.
Ça fait plaisir à Mathilde.
ça ressemble à du Squeezie, du McFly et Carlito, etc. Bref, des trucs qui marchent. Est-ce que vous avez un process de test and learn sur les vignettes où vous en postez plus plusieurs plusieurs fois, vous regardez des indicateurs sur YouTube et sur même les autres réseaux sociaux où vous postez beaucoup de miniatures. Est-ce que vous essayez de poster enfin des mini extraits d'une minute et vous regardez ceux qui marchent le mieux, vous enlevez certains et vous repostez d'autres? Comment ça marche?
Non, honnêtement, on est peut-être naïf là-dessus, mais et ça, moi, c'est un truc en vrai que j'ai appris aussi en travaillant sur les réseaux sociaux, c'est que je fais énormément confiance non seulement à ce que tu peux faire de mal et où tu peux te tromper, et deuxièmement aux algorithmes. C'est-à-dire que si une vidéo que t'as postée ne marche pas, c'est pas que l'algo est contre toi, c'est juste que ta vidéo n'est pas bonne pour la plateforme.
Alors tu dis ça, mais moi j'ai écouté beaucoup d'interviews de youtubeurs, ouais, etc., qui disent que la vignette influence énormément le nombre
totalement
de vues,
ah non,
etc.
La vignette,
et qu'il faut
Mais justement, c'est pour ça que je disais mon premier point de « je suis partisan de « il faut faire des erreurs
okay. ».
Typiquement, les miniatures, on a publié, on les publie, une fois qu'on les a faites, on les laisse au moins pendant un mois ou deux. Après, parfois, on peut refaire un batch de miniatures, on refait toutes les miniatures, etc., parce qu'on a évolué dans notre charte graphique et que voilà. Mmh. Mais c'est vraiment pour cette raison-là. On se dit pas, alors, ça, parfois, ça peut arriver si vraiment les vues sont catastrophiques, on se dit vraiment là, on a chié la miniature. Ce qui, en vrai, est pas arrivé aujourd'hui, mais si on se dit vraiment on chie la miniature, bon, okay, on refait la miniature parce qu'on pense que vraiment et que là, ça reparte, effectivement, bon, c'est une miniature qui fait le problème. Mais en vrai, on fait pas de la B-testing, non plus de fou, non, premièrement parce que déjà on n'a pas le temps et la bande passante pour le faire, et en vrai parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure de ce qu'on fait, et voilà quoi, genre vraiment c'est
deuxième bon. Question du coup plus business, un média du coup bah aujourd'hui ça se rémunère par la pub, TF1 ça se rémunère par la pub. Comment vous rémunérez? J'imagine que ce que vous donne YouTube doit pas être non plus suffisant pour vivre. C'est quoi le business model du crayon aujourd'hui, et comment aussi il a évolué depuis 2020? Comment est-ce qu'il aurait évolué?
Aujourd'hui, le business model du crayon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le départ, je t'explique un peu de manière chronologique, mais dès le départ, on s'est dit, il faut pas qu'on dépende du crayon pour faire de l'argent. En fait, parce que on va pas être Squeezie, on va pas être un gros youtubeur, le crayon, en tout cas dans les premiers temps, on peut pas compter dessus. Et puis tu sais pas, peut-être que demain YouTube, même si on les adore et ils nous ont pas mal aidé, vraiment un gros big up à eux, on sait pas, peut-être demain ils arrêteront de financer, de mettre des publicités, qu'en fait leur modèle va changer, qu'en fait tu dois repenser ton système parce que la plateforme en a décidé autrement, tu vois. Donc on s'est dit, il faut qu'on pense différemment le truc. Donc dans un premier temps, en fait, toutes les compétences qu'on avait de montage, de réseau qu'on se crée, etc., on s'est dit on va monétiser ça. On va faire en sorte que des gens qui ont besoin aussi, tu vois, nous aussi, on avait connu des gens qui connaissaient d'autres personnes, qui avaient un réseau, qui avaient des capacités en réalisation, qui avaient des capacités dans savoir gérer son image, etc., on aurait fait appel à ces services, tu vois. Et du coup, on s'est dit ça, on va pouvoir le monétiser petit à petit. Du coup, on a fait ça, mais de manière un peu éparse au début. C'était des clients qu'on avait, quelques clients qu'on avait réussi à avoir comme ça. Il faut monter une vidéo, il faut réussir à penser telle stratégie pour des boîtes, etc. Et donc, petit à petit, on a commencé comme ça. Et en fait, ça s'est structuré au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça paraît hyper clair. T'as le crayon, le pinceau, le souligneur, qui sont deux agences qui financent, qui regroupent un peu tout ce que j'ai dit. Mais au départ, c'était un peu... on fait ça, voilà, parce qu'en fait, on n'était pas non plus à plein temps dessus. Enfin, tout ça qui faisait qu'on n'avait pas non plus structuré tout ça comme ça. Et donc, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Donc, t'as le crayon qui, petit à petit, en vrai, fait de plus en plus d'argent de manière seule, autonome, mais qui dépend aujourd'hui du pinceau et du surligneur, qui sont deux agences qui font partie du crayon groupe. Donc, le pinceau, qui est une agence de strat digital et création de contenu. Typiquement, récemment, on a fait la campagne sur LinkedIn, je sais pas si tu l'as vu, de Stop Hiccup.
Non.
On a fait une campagne qui a été relayée sur pas mal de médias, qui a permis à Stop Hiccup. Donc, je sais pas si tu vois, c'est un oléoduc dans Ouganda, bref, on communiquait dessus, etc. Bon, on a participé à cette campagne. Donc ça, c'est création de contenu et stratégie digitale. Et le surligneur, c'est une agence de personal branding et relations presse. Là, on aide des entrepreneurs dans leur activité pour passer pour
plus passer à la télé, etc.
Ce genre de choses, passer dans des podcasts et aussi gérer leur image personnelle, etc. Enfin, tout ce qu'on dit.
Et ça, vous avez lancé ça il y a combien de temps, ces deux agences?
Ça, ces deux agences, elles ont été lancées avant les vacances.
Qui les gère? Parce que vous avez le temps de gérer.
Ouais, aujourd'hui, on est 15 dans l'équipe. On est 6 dans le média. 6 sur le média, et le reste se divise sur les agences. Moi, je m'occupe du média. Donc moi, je m'occupe de... en gros, je suis directeur du Crayon Média, si tu veux. Jules, donc, qui est associé du départ, s'occupe du pinceau, directeur du pinceau. Et Sixtine s'occupe du surligneur, directrice du surligneur. Et Val s'occupe de toute la partie développement, mais la casquette de CEO. Il s'occupe de toute la partie développement du Crayon Group.
Ok.
En gros. Donc c'est comme ça qu'on a réparti les tâches aujourd'hui. Et ça fonctionne plutôt bien, ouais.
C'est quoi l'objectif là? Là, donc vous êtes 15.
Ouais.
Le truc commence à vraiment bien prendre. Moi, je suis un des rares personnes de 33 ans en France à encore utiliser Facebook.
Tu nous as découvert sur Facebook.
Bon, Facebook Watch, il est truffé de vos vidéos. Après, bah, tu sais, c'est l'algo. Tu regardes un, tu regardes deux,
ouais,
tu en as 10. Donc, voilà. Mais c'est quoi la vision? Est-ce que, comme un brut, vous allez lever des fonds? Est-ce que, comme un combini ou je sais plus quoi, Minute Buzz, vous allez vous vendre à un gros mogul des médias? Est-ce que vous voulez rester indépendant jusqu'au bout? Comment vous voyez les choses? Comment vous voulez encore continuer à croître?
Pour l'instant, on est indépendant et on n'a pas vocation à... Enfin, pour l'instant, on verra comment ça se goupillera et comment les choses se feront. On est indépendant depuis le début. Hein. Les associés, du coup, les actionnaires, c'est juste Val, Jules, Sixtine et moi. On verra. En vrai, c'est très difficile à dire parce qu'aujourd'hui, on se développe bien. Ça marche bien, ça fonctionne bien.
Vous vous payez tous?
On se paye tous. Okay. On paye les personnes qui travaillent avec nous. Est-ce que qui sont salariés? Oui. Ouais, bien sûr. Et on paye les personnes qui travaillent avec nous, qui sont salariés. Donc non, aujourd'hui ça fonctionne bien et le chiffre d'affaires est en croissance aussi. Donc vraiment ça se passe bien. En vrai, c'est très difficile à dire. Nous on a le souhait de rester indépendant. De le souhaiter rester indépendant, en tout cas sur la ligne éditoriale et moi je puisse dire en fait on publie ça et que personne me dise en fait non tu arrêtes de publier ça et tu sers mes intérêts, ce qui peut être parfois flippant, enfin je sais pas, quand tu peux voir Cyril Hanouna etc avec Bolloré, je sais pas si tu te souviens de la séquence.
Oui, voilà. Qui ne s'en souvient pas,
voilà. Et cette séquence là je la trouve assez flippante, et moi c'est un truc au crayon, je veux pas que quelqu'un puisse dire voilà. Après je sais pas comment ça se passe avec Cyril Hanouna et Bolloré, mais juste voilà.
Oui, je crois qu'ils sont assez copains.
Oui, peut-être.
Mais du coup moi ma question là-dessus, c'est ouais, vous n'avez pas de limite, vous voulez développer le truc jusqu'au max là-dessus. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est vous êtes les seuls à faire du personal branding finalement. Toi, on te voit sur les vidéos, Valorant, ouais. Et Sixtine aussi. Est-ce qu'il y a une ambition derrière peut-être de vous devenir connu, aller à la télé, des trucs comme ça? Enfin, quelles pourraient être les opportunités?
En fait, dès le départ aussi, on s'est dit que le crayon devait être incarné. Parce que c'était la logique aujourd'hui des médias d'incarner les formats. On détestait les formats qui n'étaient pas incarnés chez Brut ou Combini notamment, qui font des contenus, ils sont très très forts sur leur contenu, tu vois, mais il y a certains contenus où ils sont pas incarnés, donc c'est dommage qu'ils soient pas incarnés. Du coup, nous on a commencé direct en disant en fait on va montrer nos têtes, on va assumer nos têtes et on va dire voilà c'est nous et il n'y a pas personne d'autre derrière, c'est juste nous. Et en fait de cette logique là, on s'est dit, tu vois la logique quand je te parlais tout à l'heure du crayon business, politique, culture, etc. En fait on s'est dit, déjà, on va externaliser. On a toujours voulu, on a gardé cette idée en tête de parler de tous les sujets. Tu vois. On a gardé cette idée en tête. Et on s'est dit, on va l'externaliser. Donc, on a commencé à externaliser ça. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que, déjà, on avait lancé un média. Il fallait qu'on en lance 5 autres. C'était fatigant. Et en vrai, ça nous aurait pris de l'énergie, même si ça aurait été un peu plus vite parce qu'on avait développé un réseau, des compétences, etc. C'était fatigant. Et donc, du coup, on s'est dit, ce qui marche aujourd'hui, c'est le solo média. Les solo médias, ça marche hyper bien. Bah, Go Decrypt, c'est un solo média, donc le mec est tout seul, facecam, enfin, en tout cas, incarne le média, même s'il y a toute une équipe derrière. Donc, on va développer nous-mêmes notre propre personal branding. Donc, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis sur les réseaux, Val est sur les réseaux, Jules et Sixtine ont explosé aussi sur leur propre réseau sur Instagram. Et l'idée, c'était de se dire, chacun va essayer de développer une sorte de...
Communauté qui va servir le crayon.
Exactement. En fait, on pense aussi nos communautés et ce qu'on a construit autour de... c'est des sortes de médias c'est des médias, hein, clairement.
Et tu crées ton personal branding, ce qui est important quand t'es journaliste. Parce que si demain, le crayon s'arrête ou quoi, tu peux...
Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de se dire d'être des personnalités fortes qui ont un média, tu vois. Et le média continue de tourner. Nous, on continue d'incarner sur le média, d'être là, d'être présent. Mais on a aussi développé
t'as,
un.
T'as déjà eu des opportunités pour aller à la télé ou des trucs comme ça, des trucs qui font un peu tourner la tête?
Ouais, bien sûr. Bah, on a déjà. Bah, Val est déjà passé sur CNews, tu vois, par exemple. Et plein d'autres propositions. Mais ouais, en vrai, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Mais en vrai, tu vois, genre, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de trucs soudés, etc. Quoi qu'il arrive, ma maison, c'est le crayon.
Ah ouais, je vois très bien.
Et en fait, je pourrais être chroniqueur sur une radio, sur un truc, machin.
Mais représenter le crayon.
Mais ouais, je suis fondateur du crayon, je travaille au crayon, tu vois.
Super. J'aimerais qu'on passe maintenant à quelques petites questions un peu plus globales. Est-ce que t'as déjà dû arrêter un tournage parce que ça partait trop en cacahuète? Ouais. Raconte-nous ça.
Il y a un tournage qui est en ligne d'ailleurs. Il y a un tournage qui est en ligne sur le crayon, donc je ne. Si les fans qui connaissent le crayon sont au courant déjà de ce truc, mais en gros c'est un débat qu'on a fait sur le sionisme.
Oh là, joli débat. Enflammade. Débat qui peut très vite s'enflammer.
Et on a pris en gros deux courants du sionisme, deux personnes juives qui ont débattu sur le sionisme. Donc un qui est historien, assez âgé et qui une partie de sa famille a connu la Shoah, etc. Et un autre qui pour le coup est beaucoup plus jeune et très vindicatif et très dans la provocation. Et tout le long du débat...
Lequel était anti-sioniste et lequel était sioniste du coup ?
Lequel était anti-sioniste et lequel était sioniste ? La personne plus âgée était plutôt anti-sioniste et le plus jeune était plutôt sioniste. Mais anti-sioniste, c'est pas être contre l'État d'Israël, c'était plutôt remettre en cause et en perspective certaines choses qui peuvent se passer. D'accord. Et dire que... Enfin voilà, c'était pas quelqu'un... Enfin, il est juif, tu vois, et c'est pas du tout de l'antisémitisme ou quoi, hein, c'était juste... C'est un historien qui est respecté, etc. Bref, il n'y a pas du tout de truc tendancieux, quoi. D'ailleurs, c'est même un débat qui, de base, sur le papier, même si ça paraît un sujet.
Ouais, avait l'air intéressant.
Voilà, et qui en fait est très intéressant et pas du tout propice au clash. Sauf que, bah, en fait, la personne plus jeune, super intéressante, et développe son argumentaire. Comme quoi, l'État juif, ça remonte à des millénaires, etc. Bref, je passe le débat. Mais en fait, il arrive à un stade où la personne en face de lui, donc la personne plus âgée, prend très mal une des choses qu'il dit, qui prend comme une insulte, en gros, comme contre sa famille, qui est morte à la Shoah. Parce qu'en gros, le schisme dans le débat, c'était pour la personne plus âgée, la Shoah justifiait. Le sionisme, c'est la Shoah qui faisait que les juifs avaient le droit à un état. Pour la personne plus jeune, c'était en mode non, ça remonte à des millénaires avant, on peut pas juste dire que c'est la Shoah c'est rien entre guillemets, c'est pas ça.
Là, il l'a mal pris.
Et là il l'a mal pris en mode tu peux pas dire que ça, mes familles qui sont mortes, etc. Et là du coup il se lève, le truc s'arrête, il dit moi je peux pas continuer, c'est pas possible machin, et il s'en va. Et le débat se termine, on a décidé de publier le débat. Après il y a eu un droit de réponse, donc les deux ont fait un sont exprimés tous les deux pour dire ce qu'ils ont pensé du débat, pourquoi ça s'est terminé comme ça, etc. Finalement ça s'est terminé en bon terme et tout s'est bien passé et on a réussi à tenir la barre, mais ouais, c'est un des débats qui a mal tourné finalement. Ça, tout s'est bien passé, mais voilà.
C'est qui l'invité le plus antipathique que t'as eu, ou des gens où t'as dit on peut pas le tourner, c'est pas possible, le mec est trop fou, il va trop loin? C'est déjà arrivé? Un gars juste lui dit ben non, on peut pas y aller, c'est trop caricatural, ou c'est
vrai,
n'importe quoi.
En vrai, il y a un mec qui est très, enfin tout le monde est sympa en vrai. Tu te rends compte quand tu tournes déjà avec les gens, tu te rends compte il y a très peu de gens qui sont pas sympas. Et c'est d'ailleurs très difficile parfois de dire bah en fait tu sais, t'as souvent les gens qui te disent ouais, ce mec, il est d'extrême droite, machin. Et les gens disent, bah oui, mais il est très sympa, donc.
C'est comme à l'Assemblée, ouais. Les mecs d'extrême gauche et d'extrême droite, parfois, ils sont copains. Tu dis, mais attends, c'est bizarre. Ils sont tapés sur la gueule, t'as l'âme, en
exactement.
Fait.
Exactement. Et en fait, ouais, et ça, tu te rends compte aussi de ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont dans des postures, parce que tu les vois en tant que politique, de machin, dire, et en fait, quand tu discutes avec eux, ils sont très sympas, très ouverts sur pas mal de sujets, etc. Et ouais, je sais pas ce que je pourrais te dire, un mec qui m'a, un mec qu'on a vraiment kiffé, qui était humainement, qui était incroyable, c'était Arnaud Montebourg, okay. Qu'on avait reçu. Et pour le coup,
j'ai bien son jeu.
Pour le coup, Arnaud Montebourg, c'est humainement, il est incroyable dans le sens où c'est il est en show permanent, tu vois. Genre, le mec est vraiment, il te fait rire tout le temps, il est très très fort. Et donc, ouais, Arnaud Montebourg, je m'en souviens comme vraiment, le mec est passé, c'était une tornade. Genre, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois.
La plus grosse star que t'as eu, le mec qui t'a le plus impressionné, ou la meuf qui t'a le plus impressionné, en disant, putain, on a eu ça, c'est incroyable, tu vois. Genre, t'as eu Messi, quoi.
Franchement, la sensation après avoir eu Bob Sinclair, elle était très cool. C'est un des trucs dont je me souviens. Après, on a eu. Et en fait, après, c'est un standard, en fait, tu te mets, tu dis, mais après, c'est con aussi de compter, enfin, de faire des comptes en mode, oui, bah, c'est, je veux cette personne. Enfin, c'est, tu vois, ça reste quand même des gens, qui ont des trucs intéressants à dire, au-delà de même d'être des trucs, mais c'est vrai que tu peux avoir des goals. En vrai, ouais, je te dirais Bob Sinclair parce que c'était au tout début et ça faisait vraiment plaisir. Après, je sais pas qui je pourrais dire. En vrai, il y en a eu pas mal, mais,
Celui que t'aurais rêvé d'avoir et que t'as jamais réussi à avoir?
C'est une très bonne question. Il y a un moment, moi j'adore, et j'ai toujours été fan d'ailleurs, c'est ce que je fais sur mon personal branding, à un moment je disais McFly Carlito, parce que moi j'adore, je suis fan de pop culture, genre tout ce qui est pop culture et tout, même tout ce qui est divertissement, comment, et c'est pour ça aussi je suis fasciné de, et c'est ce que j'essaye un peu de mettre dans la sauce des vidéos qu'on fait, c'est comment t'arrives à rendre une vidéo intéressante, virale, qui ne, de base ne le faisait pas, et c'est pour ça que j'adore regarder des vidéos de divertissement, typiquement McFly Carlito, Squeezie, etc, parce que je me dis, eux ils arrivent, bon certes c'est du divertissement et c'est plus simple peut-être à regarder, mais ils arrivent à te faire rester jusqu'au bout de leur vidéo, tu vois, regarder.
Et elles sont longues,
et
elles sont longues,
et elles sont très longues, et du coup comment t'arrives à faire, à implémenter ça sur des sujets beaucoup plus sérieux, graves, etc. Donc je m'inspire beaucoup de ce qu'ils peuvent faire, c'est pour ça que tu dis des miniatures qui ressemblent à Squeezie, McFly Carlito, etc.
Tu peux faire l'imposteur.
Mais ouais, non, mais c'est très fort. Et du coup, ouais, à un moment donné, je t'aurais dit eux. Mais en vrai, bon, ça reste toujours eux. Mais aujourd'hui, peut-être, en vrai, on aurait aimé, on aimerait toujours, en vrai, je te dirais Emmanuel Macron, quoi. Emmanuel Macron, c'est cool.
Et tu penses au buzz, quand t'as, le buzz dans deux sens. T'as Macron, t'as un buzz parce que tout le monde va en parler. Et le buzz aussi de se dire, ah, attends, lui, il a une grosse communauté, du coup, si je l'invite, tu vois, je dis n'importe quoi, mais t'invites un influenceur de base et tu dis, ah, mais lui, il a une grosse communauté, du coup, même s'il m'intéresse pas plus que ça, il va me ramener sa communauté.
Non, de moins en moins. Au début, pas te mentir, oui, évidemment, ça faisait partie des choses, et de te dire, bah, si cette personne, mais c'est surtout pas le raisonnement de, waouh, elle a plein de personnes, genre, plein de vues, ouais, trop bien. Non, c'est surtout si cette personne arrive à agréger autant de personnes autour de sa cause, c'est que sa cause et sa parole doit être vraiment intéressante.
Mais ils ont pas tous des causes. Par exemple, le gars qui a fait les télé-réalités, etc., il a pas forcément une cause. Il a une grosse communauté.
Ah, mais c'est,
gars
bah, oui, mais c'est pour ça que tu verras qu'on a, en vrai, les gens de télé-réalité, on en reçoit très très peu. En vrai, je crois qu'on a dû recevoir une seule fois. Donc, une personne. Deux fois, on a reçu deux personnes de télé-réalité, mais en vrai, surtout nos invités, c'est voilà, parce que en fait, si la personne n'a pas de cause à défendre, juste la vidéo va pas être intéressante. On s'en est rendu compte très vite d'ailleurs aussi, parce qu'au début, on était un peu en mode, ah oui, il y a des abonnés, donc forcément. En fait,
pas forcément.
En fait, pas forcément. Et du coup, c'est vraiment ce que la personne est capable de générer. Et c'est pour ça que je disais aussi, je fais confiance aux algorithmes. C'est-à-dire qu'une vidéo, si elle est bien, peu importe la personne qu'il y a, si la personne est intéressante, la vidéo fera des vues. La vidéo marchera.
Même s'il est inconnu au bataillon.
Ouais, même s'il est inconnu. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre pour tous les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu aujourd'hui. Les algorithmes sont tellement performants aujourd'hui. Bon, genre vraiment, et TikTok a lancé d'ailleurs la course à ça, et du coup, toutes les autres plateformes se sont lancées là-dedans. Mais les algorithmes sont tellement performants que une vidéo qui doit marcher, marchera. Après, il faut faire une bonne vidéo, il faut faire une vidéo que les gens ont envie de regarder, il faut se mettre au standard de toutes les autres vidéos, parce que sinon les gens regardent pas ta vidéo. Mais si les gens veulent regarder ta vidéo sera vue et elle fera des vues. Et ça, c'est un truc. Et c'est même pas pour dire, parce qu'il y a peut-être une époque où l'algo privilégiait certaines vidéos, machin. Il y a parfois des vidéos qui peuvent juste être ban par des trucs. Évidemment, là, tu peux rien faire, tu vois. Mais si ta vidéo remplit tous les critères d'utilisation de la plateforme, si ta vidéo doit être vue, elle sera vue, quoi.
C'est qui l'invité ultime? Celui, tu dis, si lui je l'ai, c'est bon, je m'arrête.
Je m'arrêterai jamais.
Et alors, celui où tu dis, si lui je l'ai, je pourrais jamais aller au-dessus.
En vrai, c'est difficile à dire, parce que tu vois, je te disais Macron tout à l'heure, mais je pense, tu vois, t'as des invités typiquement, ok, tu vois, genre moi je pense, si déjà Ursula von der Leyen, ça serait un truc de ouf, okay. Genre bah, tu vois, au niveau européen, donc tu montes dans l'échelon déjà, t'es au niveau européen, donc pour, je sais pas si ceux qui connaissent, c'est Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne, donc en gros c'est elle, c'est la présidente de l'Union européenne si on veut, donc déjà c'est un truc de ouf. Et après, je sais pas, un président américain, ou tu vois, si t'as Obama, c'est cool aussi, enfin tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Mais après, je Je pense pas qu'il y ait une personne qui. Moi, tu vois, en vrai, c'est ma réponse, ce serait des personnes mortes aujourd'hui. Pour moi, des personnes qui m'inspirent, c'est des personnes qui sont aujourd'hui qui sont plus de ce monde, tu vois. Donc,
t'auras du mal à les interviewer. Ouais.
Exactement. Mais il y a des formats d'ailleurs très cool d'interviews.
Truc de Hardisson, là.
Ouais, il y avait ça. Marché, ça a pas marché du tout. Mais il y avait d'autres trucs. C'était, je crois que c'était les. Comment ils s'appellent? J'ai oublié leur nom. On les avait interviewés en plus. Ça fait mauvais genre. Attends. C'était quoi leur nom? L'Hollywood. Voilà, l'Hollywood. Oui. Ils ont fait, c'est pas des interviews, mais c'est un peu des. Ils ont incarné des personnages. Ouais. Et ils faisaient comme s'ils étaient au 21e siècle et tout. Et ça, j'aime bien ce décalage que ça crée. D'ailleurs, c'est le décalage. Et c'est quand je te parle de McFly et Carlito, c'est McFly et Carlito. Ce qu'ils font dans leurs vidéos, à chaque fois, c'est du décalage. Ils arrivent à, par exemple, une personnalité, genre Gad Elmaleh, qui va te raconter une anecdote où il a chié dans un sac plastique. C'est genre décalage et improbable. Et c'est lunaire. Et bah, tu vois, ce qu'on essaie de faire aussi au crayon, c'est le décalage. Créer un truc que tu vas pas voir ailleurs parce qu'en fait, tu crées ce truc.
Il y a des moments où tu t'es dit si je le poste, ça va faire un bad buzz à la personne et tu l'as fait revoir pour valider.
C'est-à-dire pour
par exemple dans un débat, mettons Montebourg et dire un truc qui peut être mal interprété.
Jamais.
Te dis ouais. Ça peut être un bad buzz. Est-ce que tu vas lui faire revoir pour pas le piéger, etc. Parce qu'il a été sympa et t'as pas envie qu'une connerie qu'il est sortie puisse le tuer.
En vrai, pour te dire la vérité. Aujourd'hui, il y a quasiment aucun média. Et d'ailleurs, c'était pour avoir discuté avec quelqu'un qui bosse dans les médias et tout. Parce que du coup, forcément, tu rencontres des gens, tu discutes avec eux pour savoir comment ça se passe et comment eux procèdent. Et j'ai discuté à un journaliste qui est très connu, qui m'avait dit, parce que je lui ai dit, mais attends, mais ça, la personne, enfin, jamais elle va te laisser publier ça et tout, dans une vidéo qu'il avait déjà faite. Il dit, je te demande pas son avis. Et c'est ça, en fait. Enfin, un journaliste, il fait son travail et en fait, t'as pris la vidéo et tant pis, tu vois. Okay. Et t'as accepté le truc et tant pis. Et donc, en vrai, au début, on faisait très attention et, pour être tout à fait honnête, tu vois, on disait aux personnes, est-ce que là, ça vous plaît, la vidéo, est-ce que vraiment ça, on faisait attention, tu vois, parce qu'en vrai, tu veux pas te prendre qu'une personne, elle soit en mode, ah ouais, je suis allé dans ce média et en plus,
ouais, ils m'ont piégé, quoi.
C'est compliqué, tu vois. Et en vrai, aujourd'hui, on le fait de moins en moins parce que on considère que, on fait le travail, les personnes sont pas piégées, elles sont prévenues de ce qui se passe, elles savent ce qu'il y a. Si vraiment une personne dit une dinguerie, évidemment qu'on la mettra pas dans la sauce, c'est pas notre but. Mais en fait, tout simplement parce qu'on a beaucoup de bandes passantes maintenant, plus beaucoup de bandes passantes, il y a beaucoup de trucs qui tombent et il faut publier du contenu, etc. Donc, juste ça. Mais tu vois, en vrai, c'est très difficile à.
Ok, c'est bon.
Mais on reste quand même au courant de si jamais il y a un truc, imaginons, on n'a pas vu passer un truc dans une vidéo et que là, la personne se prend un torrent de haine, c'est ça. Ça peut nous arriver de dire bon,
super. Pour terminer, moi j'aime bien poser des questions un peu tout le temps les mêmes, mais je les aime bien. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
C'est une bonne question.
Celui que t'as le plus marqué en tout cas, celui où tu le ressasses dans ta tête.
En vrai, je suis quelqu'un de très solitaire. De base, je suis quelqu'un de très solo. Vraiment, moi, je voyais même pas. Enfin, tu vois, avoir des associés, je trouvais ça. Moi, j'étais en mode, ouais, je serais un génie incompris, je serais tout seul et tout machin. Et en fait, ce que j'ai le plus appris, alors je sais pas, c'est vraiment un conseil parce que oui, j'en ai parlé forcément, mais c'est un truc que j'ai appris. C'est la force du collectif. En vrai, si t'es tout seul, t'es rien du tout. Okay. T'es rien du tout et faut s'entourer, il faut trouver les personnes avec qui tu peux vraiment construire des trucs de fou. Quoi.
Et c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné?
Le pire conseil, c'est ouais, le fais pas.
Ouais, il y en a comme ça, ils sont dit, le fais pas, c'est de la merde ton idée.
En vrai, c'est pas forcément sur le crayon, mais même en général, tu vois, dans la vie, à partir du moment où on me dit fais pas, gros, tu sais très bien que je vais le faire. Ouais.
Oh là là, c'est ça qui te motive à le faire.
Ouais, vraiment. Okay. Donc, si tu me dis le fais pas, et vraiment, genre, c'est un conseil, même en vrai, tu vois, je suis très humble là-dessus parce que j'ai fait un TEDx d'ailleurs où je commence en disant le truc, je suis une merde, tu vois. Genre, moi, je considère, bref, c'est un autre débat, mais j'aime bien me dire que je suis au niveau zéro. Et bon, je suis une merde, c'est dans le sens de dire il n'y a pas de personne plus ouf que d'autres. Tu vois, je sais pas, imaginons que tu sois Barack Obama en face de moi. Bah, en fait, ouais, t'as été président des États-Unis, mais en fait, t'es une personne humaine, t'as vécu des trucs, t'as des émotions, t'es machin. En fait, on s'en fout, tu vois. C'est pas ça le sujet. Donc, j'aime bien me répéter ça. Et pourquoi je te disais ça? Oui, c'est que du coup, je prends ça avec toute l'humilité possible parce que tu vois, même là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur moi, ce que j'essaye dans mon personal branding perso, tu vois, je me suis attelé à publier une vidéo par jour tout le temps. Et parfois, mes vidéos, je sais que c'est pas ouf, c'est pas machin. Et même, j'ai la petite voix dans ma tête en mode, publie pas, fais pas et tout machin. Et du coup, je le fais constamment parce que je sais que c'est ça qui va m'apprendre, c'est ça qui va, même si je tombe, c'est pas grave, en fait, tu vas tomber, tu vas te casser la gueule et juste, en fait, tu vas apprendre et après, in fine, tu seras content de ce que t'auras fait et au moins tu l'auras fait, quoi.
Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut lancer un média maintenant?
Il est jamais trop tard, déjà. Faut se dire que nous, quand on a commencé, c'était, il y a pas si longtemps que ça et déjà, on pensait que c'était YouTube, c'était fini à l'époque. Donc déjà, il est jamais trop tard, pour se lancer. Et la première chose que je conseillerais, c'est, déjà, de faire quoi qu'il arrive. T'as envie de parler d'un sujet, parle d'un sujet, en fait. T'as envie de, je sais pas, de parler d'actu, parle d'actu. T'as envie de recevoir telle personne, bah envoie un message. Essaye de connaître les personnes autour de ton entourage qui... Parce que déjà, tu soupçonnes pas aussi la force du réseau que t'as même... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Bah, nous, tu vois, on n'a pas de base, le réseau, on l'a construit tout seul, tu vois. Et en vrai... Donc c'est dire aux personnes, bah ne sous-estime pas les personnes que tu connais, parce qu'en fait même si tu peux dire ouais j'ai pas de réseau machin, en fait tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a autour de toi et de toutes les opportunités que t'as et que tu développes même pas. Donc déjà regarde autour de toi ce que tu peux faire avec ce que t'as comme arme autour de toi, rencontre des gens un maximum. Moi c'est un truc que j'ai beaucoup appris aussi parce que comme tu vois je suis très solo, c'est un truc que rencontrer des gens c'était pas quelque chose d'évident pour moi, mais rencontrer des gens un max et ouais en vrai c'est une phrase d'Orelsan qui dit, je sais plus comment, je pourrais plus la citer exactement, mais c'est en gros dit la philosophie du truc, c'est tu veux faire des films, prends ton iPhone, tu vois, prends ton téléphone, t'as un téléphone.
Tu veux faire des films, il te faut juste un truc qui
ouais, filme. Ouais, je crois que c'est ça. C'est exactement ça.
J'aime bien Orelsan.
Voilà. et du coup, voilà. En vrai, tu veux faire des vidéos, tu veux faire des trucs cool, t'as juste un téléphone. Je connais un YouTuber très connu, plus de 300 000 abonnés et tout sur YouTube. Qui j'étais même étonné quand il me l'a dit, il tourne encore à l'iPhone.
Okay.
Donc il ouais. y a des gens
pas
qui
d'excuses,
ont...
ouais.
Il y a pas d'excuses, vraiment pas d'excuses.
iPhone le truc avec la lumière autour.
Ouais, la ring light et tout, tu feras des vidéos nulles, tu vois, c'est sûr, c'est même sûr que tu feras des trucs nuls. C'est pas grave, tu t'en fous. Et c'est parce que tu feras des trucs nuls que enfin aller regarder les vidéos du crayon, les premières vidéos du crayon qu'on a faites, c'est nullissime. Enfin nullissime de mon point de vue aujourd'hui. À l'époque, j'étais trop content. Mais en vrai, ça sera nul et c'est pas grave, continue et te laisse pas. Ah oui, si aussi un truc, je sais pas si c'est quoi tes questions après, mais je te le dis maintenant.
C'est une des dernières, t'inquiète.
Truc, c'est la résilience, tu l'as dit tout à l'heure. La résilience, c'est super. En fait, in fine, les gens qui on va dire qui restent et que tu connais dans le paysage et tout, c'est les gens qui ont pas lâché.
Moi ce que j'aime bien dire, c'est le bon ego et le mauvais ego. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bon ego pour avoir confiance en toi suffisamment pour dire que tu vas faire quelque chose de gros qui a jamais été fait, et pas le mauvais ego qui serait de dire t'as raison parce que c'est toi, t'as raison.
Ouais, bien sûr.
Et donc du coup avoir ce bon ego pour dire je lâche pas et lâcher le mauvais ego pour dire ok je fais des erreurs c'est normal donc je me remets toujours en question pour pouvoir avancer et je trouve que c'est ça la clé en fait de l'ego de manière générale, c'est te dire l'échec est normal donc je mets l'ego de je suis la personne la plus forte du monde de côté pour garder juste le côté je suis la personne qui va jamais lâcher et qui va réussir à la fin quoi.
Ouais, exactement.
Je trouve cette dualité qui est assez intéressante et qui est très je trouve synonyme d'entrepreneuriat.
Non mais c'est une très bonne métaphore et même tu vois même dans la notion de réussite en soi t'es même pas obligé de te dire parce que ça peut être très culpabilisant de enfin sans être dans la logique dans une logique hyper bienveillante ou quoi mais ça peut être très culpabilisant de se dire ouais moi je serai le meilleur et je vais réussir et tout. En fait peut-être tu réussiras pas. En fait, il faut même accepter le fait que tu réussiras pas. Mais juste pose-toi la question de est-ce que ce que tu fais là, tu le kiffes et quand tu le fais, t'es en mode t'as le smile, t'es en mode c'est incroyable, ça te procure des émotions de fou et tout. Bon après tu me diras il y a l'aspect financier à prendre évidemment en compte et tout, tu vois, mais déjà de base se dire avant de dire je vais changer le monde et tout, tu vois, mais est-ce que déjà ce que je fais, je prends du plaisir à le faire? Si oui, bah gros go. Trouve les moyens de financer ton truc et fais-le, tu sais. Et après, en fait, je suis persuadé du coup, désolé, je continue, mais
vas-y.
Du coup, je suis persuadé que tu vas générer en fait un truc positif. Et comme tu vas être dans un truc que tu kiffes faire, tu vas forcément innover, tu vas forcément réussir à trouver des trucs bien. Mais juste trouve le truc qui te fait kiffer. Et c'est Omar Sy. J'ai écouté une vidéo d'Omar Sy la dernière fois, hyper inspirante. Trop cool, tu sais, un peu le truc motivation en mode tu peux réussir à la vie, vidéo, la petite musique et tout.
Mais après, ils veulent te vendre un truc pyramidal.
Exactement. Mais là, c'était. Bon, il avait repris du coup une vidéo de Marcy. Marcy disait le feu que t'as à l'intérieur de toi, personne peut l'éteindre. Laisse pas les gens dire machin, un truc, machin. Si tu laisses s'éteindre, bah, du coup, dommage, mais ne laisse pas le feu s'éteindre. Crois en ce que tu fais. Et juste, laisse-toi porter dans le truc, saisis les opportunités où tu dois les saisir. Et...
Surtout dans ce milieu où ça galère.
Ouais, mais en fait, dans n'importe quel milieu. Et ça, c'est un truc que j'ai compris parce que j'ai fait l'entrepreneuriat. Et je pense que de toute manière, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui voué à être de plus en plus démocratisé, que de plus en plus de gens vont faire. Et moi, tu vois, pour te dire, de base, moi, j'avais une vision où je me voyais même plus comme quelqu'un qui a un esprit artistique que quelqu'un qui a un esprit entrepreneurial. Et j'ai compris... Il y a pas si longtemps que en fait non, en fait même l'esprit en soi d'artiste, même un artiste etc, en fait c'est un esprit d'entrepreneur, parce qu'entrepreneur en France ça peut peut-être être connoté en mode salut à toi jeune entrepreneur machin, et ça peut faire peur, et en vrai il y a beaucoup de gens en France je pense ont peur de ce terme là et en fait non, c'est être capable de monter des projets, de rencontrer des gens, de développer des trucs tout seul, d'être créatif sur certains aspects, de bah en fait t'as une idée, bah tu vas essayer de la développer tout de suite, tout ça se retrouve je pense chez beaucoup de personnes, et je pense qu'on a une belle génération d'entrepreneurs à venir. Et pas forcément en termes négatifs, comme je disais.
Génial. Bah écoute, merci beaucoup Antonin sur ces belles paroles.
Merci à toi.
Merci
David.
Pour cette heure 12 passée ensemble. C'était un vrai plaisir et longue vie au crayon. Merci.
Bah merci. Merci.
Salut beaucoup. À tous.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.